Katerina Ivanovna, qui avait compris le motif réel de l'étrange dévouement d'Alyosha, de ce dévouement exagéré, mystique, craignait que le jeune homme, dans ce même esprit de mysticisme et d'exagération, se laissât condamner sans chercher à se sauver. Elle le supplia donc de lui permettre d'appeler un avocat célèbre, non pas celui qui avait défendu Mitya, un autre, meilleur encore, un mystique comme vous, qui vous comprendra. « Non, Katerina Ivanovna, n'appelez personne et rassurez-vous. Mais je vous en supplie, à quoi bon vous perdre si vainement? Laissez-vous défendre. On comprendra si bien, c'est si beau. Dieu que je vous admire. Quel homme vous êtes, Alexeï. Oh, un homme très précieux, très utile à tous ceux qui vous approchent. Quel bien vous ferez quand votre influence aura un champ plus vaste. Mais c'est pour cela même qu'il ne faut pas vous perdre misérablement, sans profit pour personne. Sœur, je ne sais si vous me comprenez bien. Il y a une justice humaine et il y a une justice divine. Quand la première se trompe, elle est quelquefois réformée par la seconde, qui ne dédaigne pas d'employer pour cette grande œuvre de faibles instruments comme moi. Mais une fois cette correction divine accomplie, ce qui ne peut jamais se faire sans une violation de l'ordre public, il faut que cette violation même soit punie ou pardonnée. Je ne veux point avoir affaire au juge russe une gratuite injure. J'ai pris la place de mon frère, qu'ils avaient condamné injustement, mais ce faisant, j'ai moi-même commis une injustice. Car les arrêts de nos juges sont vénérables, jusque dans leurs erreurs. D'ailleurs, je n'ai pu, comme je l'espérais, sauver Mitya, sans compromettre ses gardiens. Enfin, il n'était coupable en fait. Mitya l'était en pensée, et si donc je suis condamné, j'expirai sa pensée et mon action. Mais c'est une folie! Vous avez l'âme trop grande, Alexeï. Vous êtes trop nécessaire à notre pauvre pays. Vous n'avez pas le droit de vous sacrifier si légèrement. » Alyosha haussa les épaules avec impatience. « Pardon, Katerina Ivanovna, mais comment ne comprenez-vous pas que je puisse être utile que si je suis irréprochable ? » fit-il avec une voix extraordinairement vibrante. « Pour conduire les hommes au bien, il faut avoir le droit de les guider. Il ne faut pas qu'on puisse dire d'Alexeï Karamazov, ce moine est un voleur. Car j'aurais volé la liberté de mon frère tant qu'on ne me l'aura pas accordé par le pardon ou rendu par le châtiment. D'ailleurs, je me défendrai, mais n'appelez personne. Katerina Ivanovna, je me défendrai moi-même. Je sais ce que je dirai. Cette scène se passait à la prison, dans la cellule où Alyosha avait été enfermé. À ce moment, la porte s'ouvrit et Madame Khochlakov entra. La bonne dame se précipita sur Alyosha en poussant des cris et des gémissements. Alyosha se dégagea doucement. « Eh mon Dieu, Alexeï Fiodorovitch !» s'écria Madame Khochlakov. « Alexeï Fiodorovitch !» « Est-ce bien vous, vous que je vois ici dans ce lieu de crime et de châtiment ? Mais je sais tout ce que vous avez fait, c'est noble, c'est sublime, c'est digne de vous. Si j'étais vos juges, je vous décernerais une récompense. Seulement, vous qui sauvez tout le monde, soyez tout à fait généreux, sauvez ma fille, faites une prière, dites seulement un mot à Dieu. Au moins, est-il aux mines d'or ?» « Qui donc, maman, le bon Dieu ?» fit la voix perçante de Lisa, dont on avait pu introduire le fauteuil dans la cellule et qui restait dans le corridor sombre. « Oh, Lisa est ici !» s'écria joyeusement Alyosha. « Oui, il a fallu l'amener. Je lui disais qu'elle ne pourrait entrer, mais elle a insisté. Vous savez comme elle est, Alexeï Fiodorovitch. Mais non, Lisa, je parlais de Dmitri Fiodorovitch, continua-t-elle en se tournant vers le corridor. Eh bien, oui, elle est malade et son mal a empiré depuis ces derniers événements, depuis ces dangers que vous courez. Oh, cela, c'est plus terrible que tout. Si vraiment vous ne plaisantiez pas l'autre jour, si vous étiez sincère quand vous lui parliez mariage, je crois que le salut est là. Épargnez-la, épousez-la, Alexeï Fiodorovitch. Je vous la donne avec ma bénédiction. Madame Khochlakov fit un grand geste pathétique. Mais elle fut tout à coup déconcertée par une nouvelle fusée de rire de Lisa, le rire le plus frais, le plus franc et aussi le plus impertinent du monde. D'ailleurs, je ne suis pas venu pour vous parler de cela. Lisa rit toujours, c'est bien. Les choses iront comme il plaira à Dieu. C'est de vous, Alexeï Fiodorovitch, que je voulais vous parler. Non, non, fit Alyosha avec un doux sourire. Parlons de Lisa. Et je vous prie, laissez-moi m'approcher d'elle jusqu'au seuil, que je puisse la voir. À la bonne heure, s'écria Lisa d'une voix gaie toujours et pourtant mouillée de larmes. Alyosha s'avança jusqu'au seuil du corridor et aperçut dans l'ombre la jeune fille. Bonjour Lisa, bonjour ma chère. Ma chère, il ose me dire ma chère. Et pourquoi pas Lisa, avez-vous oublié que je vous aime? Non, si vous m'aimiez, auriez-vous fait cela? Non, je n'existe pas pour vous. Vous ne m'aimez pas, vous ne m'avez jamais aimé. Lisa, c'est mal. Je vous avais pourtant dit que dans les affaires graves, je ne consulterai que ma conscience. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis une sotte, mais je vous aime, Alexeï. Mais qu'allez-vous? Qu'allons-nous devenir, mon Dieu? Elle pleurait. Tranquillise toi, Lisa, je traverserai victorieusement cette épreuve. Au bout d'une heure, Alyosha congédia ses visiteurs, car le moment de sa comparution devant le tribunal approchait. Il y avait peu de témoins à entendre, le fait était évident, palpable. Ce fut plutôt par un sentiment de pitié que par scrupule de conscience que les juges prolongèrent durant 3 jours les débats. Ben, ce procès fut tout différent de celui de Mitya. Alyosha était adoré autant que Dimitri détesté. Tous souhaitaient et demandaient son acquittement. Le réquisitoire du procureur se ressentit de ses dispositions à la bienveillance. Lui-même insista sur la grande jeunesse de l'accusé, sur les sentiments de mysticisme qui avaient pu l'amener à violer les lois civiles pour mieux servir peut-être quelques supérieures lois morales que lui seul connaissait. Après avoir toutefois requis l'application des lois pénales, le procureur conclut ainsi. C'est un Karamazov encore, messieurs, qui comparaît devant vous. Il n'échappe point à la violence héréditaire. Mais remarquez-le, cette violence est une force dirigée vers le bien. Elle peut avoir toute la vertu de cette foi qui transporte les montagnes. Alexeï Fiodorovitch a agi, je n'en doute pas, dans un but noble, d'après une conviction profonde et de son acte, il n'entend point éviter la responsabilité. Il ressort de la déposition de Gerasim Mikhailovitch qu'au moment où Dmitri Fiodorovitch s'est évadé, rien absolument n'empêchait son frère de le suivre. Si ce n'est donc par folie, ce ne peut être que par sentiment de justice, par honnêteté, que l'accusé est resté là pour répondre à ses juges. Vous avez vu vous-même avec quel respect, avec quelle sincérité. Or, de sa conduite ici même et de l'expertise médicale, il résulte que l'accusé a toute sa raison. Ce n'est donc pas en présence d'un criminel ordinaire que nous sommes. Je dirais même presque nous ne sommes pas en présence d'un criminel. L'infraction est constante, mais les sentiments que nous sommes accoutumés à constater dans l'esprit des criminels, le mépris des juges, la révolte contre les lois, le désir de donner le change à l'instruction, ce sont ces sentiments de criminalité dont nous constatons l'absence chez Alexeï Fédorovitch. Il n'est point de mon rôle de demander que les yeux de la justice se ferment. Mais pourtant, je ne puis m'empêcher de vous inviter, messieurs, à la bienveillance. Il semble même que je doive le faire, puisque l'accusé demeure devant nous sans défense, car j'ai su qu'il a refusé l'aide d'un des plus grands célèbres maîtres du barreau russe. Il ne veut point que des artifices d'éloquence puissent vous aveugler. À coup sûr, vous trouveriez injuste, messieurs, que ces artifices dont il refuse de se couvrir, nous les employions contre lui. Le procureur s'assit. Son discours fut salué par une triple salve d'applaudissements que le président ne put réprimer. On s'attendait qu'Alyosha, à la question ordinaire, « Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» répondrait par ce doux hochement de tête qui lui était habituel. Mais, à la surprise générale, il se leva. Il se fit un silence absolu. La jeunesse de l'accusé, sa beauté, son attitude à la fois modeste et fière, tout lui conciliait l'affection et l'admiration générale. Et en songeant qu'il y allait pour lui des travaux forcés à perpétuité, toutes les femmes pleuraient. Ce n'est point une défense que j'entends faire devant vous, murmura Alyosha. Sauf quelques exagérations de la part du sous-officier Konstantin Semyonovitch, les faits vous ont été exposés dans toute leur vérité. Je ne nie rien. Je vous ai repris la liberté de mon frère, victime d'une erreur judiciaire dont d'ailleurs je n'accuse personne ici. Le concours des circonstances qui ont causé la mort de mon père devait égarer la justice. Le passé de mon frère Dmitri, ses relations violentes avec mon père, l'égarement de mon frère Ivan, tout accusait celui que vous avez condamné et qui pourtant, messieurs, est innocent. Car il est innocent. Je n'entreprendrai point de vous le démontrer, il est trop tard, et vous ne me croiriez pas plus que vous n'avez cru alors. Mais ma conviction est absolue, et ainsi que l'a dit avec bienveillance, monsieur le procureur, c'est elle qui m'a fait agir comme j'agirais encore si ce n'était déjà fait. Je ne nie rien, mais je ne regrette rien. Je m'abandonne à votre jugement. Si vous me condamnez, vous aurez certes agi en votre âme et conscience. Ce sera strictement juste et je ne suis resté entre vos mains. Numéro 1, si vous me condamnez. Si vous me condamnez, vous aurez certes agi en votre âme et conscience, ce sera strictement juste, et je ne suis resté entre vos mains, car il est très vrai que j'aurais pu m'abader avec mon frère, que pour vous laisser le moyen de me punir comme vous en avez le droit. Innocent pour innocent, que vous importe lequel. J'ai revêtu, en prenant sa place, la personnalité de mon frère. Je suis, pour vous, messieurs, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. S'il est coupable, pourquoi n'ai-je pas poursuivi ma route vers la Sibérie? Je pense toutefois que vous ferez bien de me rendre la liberté et de m'acquitter parce que, et seulement pour cela, Dmitri Fiodorovitch Karamassov est innocent, du moins en fait. Il vous a déclaré lui-même qu'il avait eu le désir de tuer. Certes, l'intention équivaut à l'action. Pourtant, les secrets désirs vous échappent. Vous n'avez pas le droit de les poursuivre dans les mystérieuses retraites du cœur. Et d'ailleurs, dans les grandes âmes, de tels désirs sont suivis, presque autant que les actions, de remords qui les châtient. Mon frère échappe au bagne, mais il reste emprisonné dans sa conscience. Toutefois, puisque le désir a été révélé, ce châtiment invisible du remords serait peut-être insuffisant. Il faut une peine publique au criminel désir public. Vos codes n'ont point édicté de peine contre de tels crimes intimes. Eh bien, messieurs, faites justice. Vous ne pouvez point me punir d'un meurtre dont vous ne songez à m'accuser, mais par le fait même, et même indépendamment de votre volonté, en me punissant, si vous me punissez, ce sera la mauvaise pensée de mon frère que vous aurez poursuivie. Car, sachez-le, je me suis constitué votre prisonnier seulement parce que je me suis souvenu d'avoir entendu mon frère accompagné de menaces de mort le nom de mon père. Non pas que je crois qu'il aurait jamais pu exécuter ces menaces, mais ces menaces sont un crime et un scandale, expiés du reste peut-être déjà par l'humiliation d'une injuste condamnation. Ainsi, diversement, tous les coupables ont été châtiés. Mon frère Ivan, de ses erreurs purement spirituelles, par l'égarement momentané plaise à Dieu de son esprit. L'assassin de mort et mon frère Dmitri par une sorte de dégradation morale. J'estime donc que votre justice devrait être satisfaite. Je n'ai rien de plus à dire, messieurs, sinon que j'accepte d'avance en toute humilité et que je respecte votre jugement, quel qu'il puisse être. » Il se tut. L'émotion était telle qu'elle ne se manifesta que par un silence de mort, entrecoupé seulement de sanglots. La séance fut suspendue de fait pendant 10 minutes. Tout à coup, dans ce silence, un bruit insolite attira l'attention générale du côté de la porte. Pâle, échevelée, chancelante, une jeune fille entrait, de qui tout le monde s'écartait avec une sorte de crainte superstitieuse. « Lisa !» s'écria Katerina Ivanovna et elle courut à la jeune fille. Mais Lisa, silencieuse, la repoussa d'un geste et marchant droit devant elle, le regard fixe, s'arrêta immobile devant le tribunal. Le public, les jurés, les juges, tout le monde se leva. Le président fit un signe à l'huissier qui s'empressa de soutenir la jeune fille. Il était temps, elle défaillait. Soudain, elle se retourna vers Alyosha, qui la considérait avec des yeux pleins de larmes de joie. D'un geste puéril et charmant, elle lui envoya un baiser. Puis s'adressant au juge, elle s'écria d'une voix singulièrement perçante « C'est injuste! Il m'a sauvée !» Elle s'évanouit. Cette guérison miraculeuse, quoiqu'elle s'explique peut-être physiologiquement par la réaction nerveuse d'une très vive émotion, émerveilla l'assistance. Chacun connaissait la maladie de Lisa, nul n'hésitait à attribuer à Alyosha ce rétablissement inattendu. L'effet fut prodigieux. Tout le monde s'agitait, parlait. Le président ne songeait même pas à réclamer l'ordre, le silence. Les juges partageaient l'émoi général. Alyosha seul restait calme. Il souriait à tous ces visages où se peignait tant d'amour pour lui. Des larmes lui venaient aux yeux, de ces larmes sereines, mieux que de joie, mieux que de bonheur. Enfin, chose sans exemple peut-être dans nos fastes judiciaires, le président demanda aux jurés s'ils voulaient se retirer dans la salle de délibération. Mais tous ensemble, et sans se consulter, répondirent que ce n'était pas nécessaire. Séance tenante, Alyosha fut acquitté. Katerina Ivanovna l'emmena chez elle ainsi que Lisa. On avait eu de la peine à dérober aux ovations ce héros du jour, mais il dominait tous ceux qui l'approchaient par son calme extraordinaire. Chez Katerina Ivanovna, on retrouva Madame Kholkhalakov, qui, ne sachant où était sa fille, la cherchait et pensa mourir de joie en la voyant marcher. Ce jour même, les fiançailles des deux jeunes gens furent faites. Madame Kholkhalakov fut à cette occasion moins exubérante qu'elle n'avait coutume. Quant à Katerina Ivanovna, elle considérait Alyosha avec une admiration religieuse. Et lui, souriant toujours, avait parfois d'étranges regards dans le vague au loin, comme s'il contemplait à l'avance ses destinées. Ivan était toujours fou.